Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans La Ligue et vous, une émission proposée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Ce mois-ci, nous allons aborder le sujet des mineurs non accompagnés où une conférence à ce sujet s'est tenue à Bruxelles et nous vous ferons écouter une interview de Marie-Christine Vergia, ancienne eurodéputée et marraine de ce projet. Nous allons également aborder les sujets du harcèlement et de la discrimination où nous avons eu l'occasion d'interviewer Marine Borsato de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Alors, les mineurs non accompagnés, qui sont-ils ? Le harcèlement et la discrimination vers une amélioration des choses. Nous vous donnons quelques chiffres et nous en discuterons, mais d'abord, un peu de musique. Le vendredi 27 septembre s'est tenue à Bruxelles une conférence sur les mineurs non accompagnés. N'est-ce pas Manon, tu peux nous en dire plus à ce sujet, car tu étais présente à cette journée ?
Oui, bien sûr Thomas. Si le sujet des mineurs non accompagnés en Europe est plus que jamais d'actualité, c'est depuis les années 70 que le continent observe sur le territoire un nombre alarmant d'entrées d'adolescents et d'enfants seuls, livrés à eux-mêmes en étant privés de tuteurs légaux. C'est dans ce cadre que s'est déroulé au CESE, Comité économique et social européen, de Bruxelles, dans la matinée du vendredi 27 septembre 2019, la conférence sur le projet Jeunes mineurs non accompagnés en Europe. Porté par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, le projet avance grâce au travail commun entre 5 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche ainsi que la Suède. C'est en cela que le projet Erasmus+ est un soutien important dans la lutte puisqu'il s'agit d'une ligne budgétaire importante de l'UE permettant un financement de plus en plus important des programmes d'échange entre pays européens. C'est durant près de 2 heures que se sont exprimés à tour de rôle les principaux acteurs de ce projet, dont Marie-Christine Vergia, qui en est la marraine, nous confie lors d'une interview l'enjeu de cette conférence et son souhait de durabilité quant à la question dont le réalisme est étouffé, dont on va écouter son interview actuelle.
Alors, je m'appelle Marie-Christine Vergia, je suis française et j'ai été députée européenne de 2009 à 2019.
Par ailleurs, je suis une militante associative depuis très longtemps, et notamment militante de l'éducation populaire et militante des droits de l'homme. Alors ce projet, il concerne les mineurs non accompagnés, justement. C'est des jeunes migrants, hein, et ce projet, il concerne ces mineurs, quel que soit leur statut. Mais on sait, en réalité, notamment dans le Calaisis, que beaucoup de ces mineurs sont seuls et ont du mal à faire reconnaître leur situation d'enfant, oserais-je dire, mais au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui considère qu'un jeune, jusqu'à 18 ans, doit être protégé parce qu'il est mineur. Et donc, la Convention européenne des droits de l'enfant s'applique, la Convention internationale, par contre, des droits de l'enfant s'applique jusqu'à 18 ans. Ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est que moi, j'ai travaillé beaucoup pendant mon mandat européen, mais je travaillais avant et je continue de travailler aujourd'hui sur la question migratoire, sur la façon dont on hystérise, si j'ose dire, cette question, au lieu d'essayer de mettre du réalisme, d'expliquer les problèmes. Et je pense que la question des mineurs est une bonne façon de faire avancer les choses, parce que quand on rencontre ces jeunes, on voit bien, quand on connaît leur parcours notamment, qui sont souvent des parcours très douloureux, c'est probablement une façon de faire avancer cette question, de faire avancer la question des droits pour ces gens qui vivent sur le territoire. Et ce qui m'intéressait en plus, c'est que c'était un projet européen qui concernait 4 pays de l'Union européenne, donc la France, mais aussi l'Autriche, la Suède, l'Italie et l'Espagne. Et moi, je suis persuadée, après 10 ans de mandat européen, que c'est très important de faire travailler ensemble des associations de différents pays européens pour construire la citoyenneté européenne et pour donner à voir que l'on peut travailler ensemble, que l'on peut échanger des expériences et que cela nous enrichit. Il a été porté en France par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, par une structure italienne, par une structure suédoise, par une structure autrichienne et par une structure espagnole. Après, chacune de ces structures a sa façon de s'organiser dans son pays. La structure italienne était une structure qui était plutôt régionale, qui travaillait sur les pouilles dans le sud de l'Italie. La structure suédoise avait un réseau national. La Ligue de l'enseignement, c'est un réseau national, mais c'est la Ligue de l'enseignement Pas-de-Calais qui a surtout porté ce projet. Donc chacun peut le faire avec son expérience à des niveaux différents. Et au contraire, d'ailleurs, ça permet aussi, et la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais l'a porté à son congrès, puisque j'étais au congrès de Marseille au mois de juin, si ma mémoire est bonne, justement pour présenter le projet. Le programme Erasmus+, c'est un programme budgétaire, on va dire, financier européen, qui concerne toutes les questions d'éducation au sens très large du terme. Au départ, c'était le projet Erasmus que vous connaissez peut-être. C'était les échanges, notamment entre étudiants, mais qui a été étendu à la formation professionnelle, aux lycéens et même aux collégiens avec un projet, y compris d'échanges sur le primaire. C'est un des plus beaux programmes de l'Union européenne. Mais il y a quelques années, on a rassemblé tous les projets qui portaient sur l'éducation au sens large, c'est-à-dire les programmes jeunesse, les programmes d'éducation populaire, les programmes sportifs, je crois, si ma mémoire est bonne. Et c'est une ligne budgétaire de l'Union européenne qui permet notamment des échanges entre pays européens, parce que la Commission européenne a eu comme objectif de financer de plus en plus les programmes d'échange, plutôt que de financer, se mettre à la place des États pour financer ce qui relève des États, d'apporter un plus européen, qui est justement ces constructions entre des structures de différents membres de l'Union européenne, peut-être un peu aussi pour passer outre les États qui ont tendance à bloquer un certain nombre de choses ou à récupérer des choses qu'ils devraient financer eux sur leurs financements nationaux et qu'ils cherchent à faire financer au niveau de l'Union européenne dans ces périodes de contraintes budgétaires, notamment sur ces secteurs d'ailleurs. L'idée de ce projet, c'est de continuer. Ils ont travaillé ensemble pendant 2 ans. Ils ont édité un guide de bonnes pratiques, proposé un outil de formation en ligne. Et ils veulent continuer de travailler en réseau pour continuer à échanger. La question des mineurs non accompagnés est loin d'être résolue, même si le nombre peut évoluer. C'est très variable selon les pays. On avait dans les témoignages le nombre diminue en Suède parce que la Suède a eu tendance à fermer sa frontière, alors que c'était le pays européen qui acceptait le plus de mineurs. Mais on voit bien que dans les pays du sud de l'Europe, au sens assez large du terme, au contraire, ce nombre augmente. C'est le cas en Italie. On n'a pas d'exemple en Grèce, mais je pense que c'est exactement la même chose en Espagne et en France, parce que la France, ben justement, elle est entre l'Espagne et l'Italie. Et en plus, elle a une histoire par rapport à l'Afrique subsaharienne qui fait qu'il y a des jeunes qui ont envie de venir en France. Donc, il faut que ça continue, parce qu'il faut qu'il y ait une pression quelque part de la société civile pour que ces jeunes soient pris en charge. Et c'est particulièrement important parce qu'on va fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant au mois de novembre, fin novembre. On va sûrement entendre des tas de beaux discours. Donc je pense que ça serait bien qu'on puisse mettre des actes concrets là-dessus. Et c'est aussi un moyen. Les organisateurs parlaient d'une lettre à adresser à différentes instances. Je pense que c'est un moyen, justement, au moment de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, de dire « nous, on a travaillé, donc concrètement, voilà ce qu'on demande et voilà ce qu'on propose ». Je trouve que c'est, comme je le disais, c'est une bonne façon de prendre la question migratoire autrement. De montrer que ce sont des jeunes en difficulté, des jeunes qui ont eu des parcours migratoires difficiles, douloureux. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont partis, chacun d'eux a une histoire qui souvent fait frissonner quand on les écoute. C'est des histoires très lourdes, quels que soient les pays d'où ils viennent. On ne part pas tout seul comme ça, à 15, 16 ans, quelquefois moins. Pour des parcours comme ceux-là, si on n'est pas obligé de le faire quelque part. Donc je trouve que c'est important de faire évoluer les mentalités sur ces questions-là. Quand on regarde les chiffres, je ne sais pas si c'est compris de le dire comme ça, mais ça paraît tellement dérisoire par rapport au mouvement de population qui anime le monde actuellement, y compris à l'intérieur de l'Afrique, parce qu'on voit l'Afrique comme un endroit qui va déverser ses ressortissants sur l'Europe. C'est pas vrai du tout. Les mouvements de population, ils sont d'abord à l'intérieur de l'Afrique. Je pense qu'en partant d'exemples concrets, et notamment de la situation des enfants, oui, on peut faire changer le regard, bouger le regard sur ces situations et je pense que c'est très important. Et c'est, oui, un de mes chevaux de bataille.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pas méchants, ce ne sont que des jeux d'enfants. Il te suffit d'être patient ou d'être un peu plus souriant. Mais ce soir, cet enfant qui attend depuis longtemps d'enfermer les temps forts de son enfer dans une amphore ajoutera sur son bras des ombrages au combat. Déçu, il ne combat pas, déchu, il ne comptera pas. Pas mur ouverte, oui, il va en bouffer. Et toi, tu restes là, tu y repenses à l'heure du repas. Tu croises les doigts quand ça n'empire pas. Au pire, tu diras que tu ne savais pas. Menteur, tout se passe sous ton nez. Et quand le drame arrive, tu fais l'étonné. Et sans vouloir te faire la leçon, il y a des leçons que t'as pas données. Sale gosse qui a grandi sans punition pour ses méfaits. Sale gosse restera et reproduira tous ses méfaits.
C'est pas ton travail, hein.
tu sais pas quoi faire. Donc c'est toujours aux victimes de se taire. Donc c'est toujours aux victimes de se taire. Ah, c'est pas ton travail.
Vous êtes toujours dans l'émission La Ligue et vous, une émission proposée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Nous allons enchaîner sur notre deuxième sujet, le harcèlement et discrimination. Le harcèlement et discrimination existent sous de nombreuses formes, du cyberharcèlement au harcèlement scolaire, en passant par le harcèlement au travail. Il en va de même pour la discrimination, qu'elle soit de genre, d'origine ou de religion.
Concernant le harcèlement, d'après la source, selon le journal Le Monde, un enfant sur 10 est concerné en milieu scolaire concernant la discrimination. Un Français sur 4 se dit avoir été victime de comportements discriminatoires au travail. Et justement, pour parler de ces sujets, nous avons interviewé Marine Borsato de la Ligue de l'enseignement.
Bonjour Marine, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton travail au sein de la Ligue ?
Bonjour, je m'appelle Marine Borsato, je travaille à la Ligue de l'enseignement au pôle éducation et formation. Donc, j'accompagne les établissements scolaires, les CPE, les enseignants, les infirmières et infirmiers à créer leurs projets auprès de leurs élèves sur trois thématiques, la laïcité, les discriminations et la citoyenneté. En parallèle, je travaille aussi à développer les junior associations, des associations créées par des jeunes mineurs qui ont plein d'idées et plein de projets et je les accompagne du coup à monter leur structure.
Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que représente pour toi la discrimination dans ce que tu fais à la vie ?
Alors, c'est une thématique où on est souvent appelé, notamment dans les établissements scolaires aussi, pour bien définir ce qu'est la discrimination. On essaie justement de voir tous les critères de discrimination, de voir aussi les différences entre, par exemple, du racisme et de la discrimination interdite par la loi, de montrer tous les cas de discrimination qui sont interdits ou non par la loi aussi. Donc c'est assez complexe au final quand on regarde la discrimination et on essaye aussi de trouver des solutions sur la discrimination. Donc là, on parle aussi de vivre ensemble. Donc en fait, quand j'entends discrimination, j'entends aussi l'inverse, vivre ensemble, vivre pas à côté, mais avec les personnes.
C'est un sujet dont on parle de plus en plus souvent, mais néanmoins, penses-tu que la sensibilisation est faite de manière correcte ? Et est-elle suffisante ?
Oui et non. La sensibilisation est faite par certains établissements qui décident de s'y atteler. Néanmoins, la discrimination peut faire aussi peur à certains enseignants ou la communauté éducative, parce que du coup, on rentre sur une thématique assez personnelle. Au final, ça touche vraiment le vécu des élèves. Parfois, les ateliers peuvent être mal vécus ou vécus vraiment trop personnellement. Et donc, du coup, il faut pouvoir gérer aussi toutes ces émotions autour de cette thématique, la discrimination. Souvent, les enseignants ou autres, mais ils ne veulent pas forcément rentrer dans ces thématiques-là, puisqu'ils ne sont pas forcément armés pour répondre à ces thématiques. Après, je ne globalise pas, hein. Il y a plein d'établissements, heureusement, qui font font de la sensibilisation avec leurs élèves. Il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent là-dessus, que ce soit la discrimination sur les origines, que ce soit la discrimination par rapport aux origines, par rapport à l'orientation sexuelle, au genre. Il y a beaucoup d'associations aussi qui œuvrent là-dessus et qui réalisent des ateliers avec les élèves. Ça s'est réveillé depuis quelques années, heureusement.
Quelles actions pourraient être mises en place, en plus de celles qui existent déjà, afin de lutter contre ça ?
Alors déjà, il faudrait pouvoir cerner aussi quand il y a ce genre de situation qui arrive, notamment dans l'établissement scolaire, mais aussi autres, dans le quartier, dans la ville, dans les espaces publics. La première chose, c'est d'en discuter aussi, d'en parler, de débattre autour de cette question, de ne pas avoir peur des mots, de ce que cela peut engendrer aussi. Favoriser donc le dialogue avec tout le monde, avec, par exemple, si je parle dans l'éducation nationale, favoriser le dialogue avec les élèves, mais aussi avec la communauté éducative, pour qu'il y ait un échange, justement, et pour cibler ce genre de situation. Et ensuite, il n'y a pas de secret, sont les ateliers, travailler avec les élèves aussi dessus, travailler avec des jeux de rôle, des jeux ludiques, des expositions, voilà, vraiment multiplier les ateliers pour qu'au bout d'un moment, ces situations cessent.
As-tu souvent reçu des témoignages de discrimination au sein des écoles ?
Alors, de discrimination en tant que telle, non, mais plus des situations de violence qui peuvent être liées ou non, mais alors là, on ne sait pas forcément par rapport à ça, des violences entre élèves. Donc là, on est de plus en plus sollicité justement pour gérer ces conflits, mais ces conflits ne viennent pas non plus par hasard, et du coup, il peut souvent avoir un terreau justement où ça part d'une situation de discrimination entre des élèves ou des élèves qui se replient sur eux-mêmes et n'acceptent pas d'autres personnes. Donc du coup, c'est souvent pour ces situations-là qu'on est appelé.
Franchement, non. Après, j'ai toujours été dans des écoles en campagne, à vrai dire. Et quand je suis arrivé dans le supérieur, j'ai toujours eu un caractère un peu imposant. Alors, du coup, j'imagine peut-être que ça me protégeait de différentes, de stigmatisation, d'harcèlement, de choses comme ça. Donc, non, j'en suis relativement épargné. Après, pour ce qui est d'en avoir vu, j'en ai été témoin. Surtout, chez des gens, vous savez, c'est le mec du fond de la classe, celui qui est un peu timide, qui n'a pas forcément tendance à aller vers les gens. Et puis quand on est gamin, quand on est ado, il y a un côté de retrouver de la puissance en fait en humiliant un petit gamin qui peut rien vous faire. Donc oui, ça j'en étais moins et ça m'a pas mal affecté parce que j'étais toujours très ami avec ces gens-là. J'ai toujours aimé ces gens et c'est assez triste mais oui, tout ça pour dire que oui j'ai pu en être témoin et j'ai eu la chance d'en être relativement épargné. C'est du harcèlement scolaire. Oui, c'est vrai que là je suis plus sorti vers harcèlement scolaire. Discrimination, vous savez, c'est école de campagne, on se ressemble tous, donc il n'y a pas de discrimination, notamment sur la base de la race ou du genre. Et quand je suis arrivé dans le supérieur, je pense que c'est une époque où ces discriminations se font moins à la face de tous, et du coup, j'en ai pas été témoin. Après, harcèlement scolaire, oui, mais pas tout ce qui est racisme. Ouais, je pense que ce qui est des stigmatisations sur la base du genre et de la race, dans les écoles, dans les études supérieures, je pense que c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux et un peu moins devant, quoi, c'est plus le... Et je pense même c'est plus insidieux, parce que à des âges plus élevés, c'est un peu plus insidieux, quoi, c'est... Ouais, et puis c'est pas même des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. J'étais surpris par certains... J'ai débat beaucoup avec des gens sur Twitter. La rapidité avec laquelle les gens chopent des petits trucs pour les détourner, les retourner, et des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est assez surprenant. Je vais me dire, franchement, je pense qu'il y en a trop, mais trop qui, pour moi, vont pas dans le bon sens. Et j'ai pas beaucoup d'amour pour les lois qui vont de flicage des réseaux sociaux, de sanctions à tout prix de tout ce qu'on peut dire. Je pense que ce serait plus intéressant de travailler sur l'estime de soi et sur le regard qu'on a vers les autres. Par exemple, moi, j'étais un gamin qui a eu beaucoup de mal avec le regard des autres. J'avais des problèmes aux yeux et qu'on se moquait beaucoup de moi. Enfin, j'en avais pas grand chose à faire parce que j'avais fait un travail sur moi et du coup, ça me touchait moins. Et je trouve qu'on est quand même dans une époque d'hypersensibilité où peut-être avec raison, on prend tout à cœur et tout pour soi, alors que je pense un peu de relativisme sur ça, c'est-à-dire un idiot qui vous insulte sur votre race ou votre genre ou votre sexualité n'est rien d'autre qu'un idiot qui gueule, quoi, c'est sans jamais pardonner tout ça. Je pense qu'il y a un vrai travail sur ces questions-là, de se comprendre, de se sentir, de s'assumer, et de quand on se respecte, quand on n'a pas honte de ce qu'on est, ça ne nous touche pas, quoi. Et donc finalement, même si j'ai pu critiquer dans le début de mon propos tout ce qui est dans les grands placardages, mon ami noir, c'est mon ami quand même, des trucs un peu grossiers, même si je peux les trouver un peu critiques, c'est vrai qu'elles ont pu apporter un certain côté une mise en image qu'il y avait un problème là-dessus, que enfin moi de campagne qui ai jamais vu de gens d'issue de la diversité, ça a pu me donner un premier contact avec ces gens-là et puis comprendre qu'il y avait pas de que c'était rien, quoi. C'est tout.
Qu'est-ce que t'évoques ce que l'on vient d'entendre dans le micro pour toi?
Eh bien déjà c'est bien, il y avait plein d'idées sur le sujet, donc ça fait plaisir à entendre. J'aimerais juste revenir sur deux petits points où notamment ce monsieur du coup revenait sur on peut excuser un enfant justement dire une phrase qui semblerait raciste, mais quand on est plus grand on pourrait pas l'excuser. Il faut justement commencer quand on est plus petit, puisque si on laisse des phrases comme ça arriver, même si elles sont anodines au final et qu'il y a peut-être pas la violence qu'un adulte peut mettre derrière ces phrases, je pense que justement, travailler avec les plus jeunes sur ces questions-là, sur comment justement une phrase peut impacter une autre personne, c'est important de le faire à cet âge-là et pas d'attendre quand on est adulte ou quand on est ado. Donc voilà, après, c'est un travail partagé à faire avec les parents et aussi l'école, mais je pense que c'est important quand même de le faire. La deuxième chose, en effet, travailler sur l'estime de soi, je pense que c'est une bonne chose pour lutter contre le harcèlement, puisque les auteurs d'harcèlement ont rarement confiance en eux. eux aussi. Donc je pense que des personnes qui ont confiance en soi ne harcèleraient pas justement leurs camarades. Après, je suis pas du tout experte dans le domaine. Je pense qu'il y a des associations plus douées dans le harcèlement. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même travailler sur l'estime de soi, mais surtout aussi des auteurs. Parce que là, le garçon nous expliquait, oui, il faut pouvoir justement, entre guillemets, accepter les remarques qu'on nous fait. Voilà, c'est un idiot qui nous dit cette phrase. Oui, mais alors pour accepter ça, il faut aussi avoir une bonne confiance en soi et puis c'est remettre un petit peu la faute sur la personne qui reçoit en disant oui, mais c'était de l'humour, donc il faut le prendre au second degré ou choses comme ça. Non, je pense vraiment que chacun peut recevoir une phrase d'insulte comme il le ressent et c'est pas du tout la faute à la... Enfin, en tout cas, il faut pas remettre la responsabilité sur la personne qui reçoit ces moqueries, par exemple, puisque justement, sur l'estime de soi, on n'est pas tous au même plan et il y a un gros travail à faire. Notamment, nous, à la Ligue de l'Enseignement, on travaille justement à créer des ateliers pour développer l'estime de soi, et même quand on est adulte, puisqu'on en a besoin tout au long de notre vie, et c'est ce qui est le plus dur à travailler. Et je pense que dans la thématique d'harcèlement, il faut pouvoir travailler ce côté-là, mais sans oublier aussi les auteurs. En disant, voilà, le problème de toute façon dans ces thématiques-là, c'est parce que des personnes font ça. Il faut savoir aussi pourquoi ces personnes harcèlent d'autres camarades, pourquoi tant de moqueries. Et quand on aura compris ça, je pense qu'on pourra justement aller un peu plus de l'avant.
Alors, est-ce que selon toi, aujourd'hui en France, cela change ? Est-ce que cela va vers une amélioration ?
C'est vrai que dans la société, ça évolue. C'est vrai que si on regarde même par exemple en Europe et au niveau des gouvernements qui sont choisis, il y a certains gouvernements issus de l'extrême droite qui sont en place. Et c'est vrai que face à ça, nous, on a peur au repli sur soi. Nos principes à la Ligue de l'Enseignement, on travaille plus sur le vivre ensemble, le vivre avec les personnes, faire société tous ensemble et accepter en tout cas toutes les différences. Ces principes-là ne se retrouvent pas forcément dans ces organisations. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à redouter le repli sur soi. Nous, c'est sur lequel on travaille justement sur le département du Pas-de-Calais, où on travaille justement à éviter le repli sur soi. On essaye de mettre en place des événements qui favorisent justement la rencontre. On accompagne les associations aussi du territoire qui le font. Et justement, c'est dans ce sens-là, c'est pour éviter un peu cette recrudescence, pas forcément d'individualisme, mais plus de rejet de l'autre.
Et pour revenir sur le témoignage précédent, est-ce vrai que cela évolue de l'école au lycée, par exemple la forme de la discrimination sur les réseaux, discrimination dans la rue, ce genre de choses ?
Évolue, oui, je pense, c'est évidemment, puisque dans l'école primaire, on n'a pas forcément... les jeunes ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux, mais quand même, l'accès se fait plus au sein des collèges. Du coup, par exemple, si, comme le monsieur parlait de harcèlement aussi... En école primaire, il y en a aussi, mais ça ne sera pas sous les mêmes formes. Au collège et lycée, là, on verra beaucoup plus l'enjeu des réseaux sociaux qui vont arriver, qui sont inhérents, en fait, au harcèlement, les réseaux sociaux. Je pense qu'on l'a vu aussi avec pas mal d'affaires, justement, publiques, notamment des journalistes qui se sont fait harceler pour quelques propos, tout ça. Ça se fait aussi sur Internet, beaucoup. Après, ça évolue aussi, puisque bah, c'est vrai que sur Internet, les gens ont tendance à plus se lâcher aussi, puisque ce n'est pas du face-à-face, et donc, du coup, on a l'impression qu'on peut tout dire sur Internet. Les phrases, les mots sont d'autant plus violents sur Internet. Donc, je pense que la violence et l'impact des mots a augmenté avec ça. Donc oui, on peut dire qu'il y a des formes en fonction de l'âge des personnes. Après, il y a toute forme d'harcèlement aussi. On a parlé d'harcèlement moral, on peut aussi parler d'harcèlement sexuel aussi. Voilà, l'harcèlement prend vraiment toute forme. Ça peut être combiné, ça peut pas être combiné. Il y a vraiment un faisceau, justement, un faisceau d'indices où il faut rester vigilant, en tout cas pour le harcèlement, et qui peut amener à des violences physiques ou non.
Est-ce qu'il y a suffisamment de précautions prises au niveau des réseaux sociaux ou selon toi ?
Je pense qu'il ne faut pas se limiter aux précautions techniques, comme par exemple Facebook qui pourrait supprimer des comptes ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi le rôle de la famille aussi, le rôle, la place justement des réseaux dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un adolescent, dans la vie d'un adulte aussi. Donc je pense qu'il y a les amis, la famille, tout le monde en fait a une part de responsabilité aussi là-dessus. Nous, on ne peut pas laisser un adolescent sans précaution à aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui font attention, c'est sûr. On ne peut pas non plus être là 24 heures sur 24, c'est sûr aussi. Mais je pense que, voilà, en travaillant tous ensemble là-dessus, sur les dérives que ça peut avoir, si on rajoutait par exemple plus de politiques de confidentialité ou des choses comme ça, ou sur lesquelles on peut s'appuyer, on pourrait plus contrôler ces situations justement d'harcèlement.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Voilà, notre émission touche à sa fin, mais pour finir, un petit rappel sur les prochains événements de la Ligue. Le 16 novembre se déroule la journée départementale des juniors associations à Arras. Ce dispositif combine la réalisation de projets par des jeunes avec un esprit d'initiative et d'autonomie. Il donne la possibilité aux jeunes de s'investir, de s'exprimer via des projets concrets, comme l'animation de la vie locale, des projets de solidarité internationale, l'animation culturelle, des projets sportifs et la préservation de l'environnement. Ce dispositif, porté par des fédérations d'éducation populaire, respecte les valeurs de la République. Il fait rappeler à la liberté d'expression des jeunes, les fédère autour d'un projet et leur donne une place centrale dans leur éducation. Il concerne les jeunes de 11 à 18 ans qui ont un projet, une idée, une envie ou une passion à partager. Pour créer leur association, ils doivent être deux minimum. Une junior association peut être accompagnée par un adulte référent afin de leur apporter une aide dans le développement de leur association. Les avantages concernent les jeunes sont nombreux. Ils peuvent compter sur un accompagnement du projet ainsi qu'un accès au réseau de jeunes et professionnels engagés.
Si cet événement vous intéresse, alors rendez-vous à la salle des Orfèvres et des Tisserands, 7 avenue du Maréchal Leclerc à Arras. L'événement est ouvert au public de 14h à 16h. Vous découvrirez de nombreux projets et initiatives des jeunes et du Pas-de-Calais, à savoir les juniors associations, les coopératives jeunesse de services, les conseils municipaux de jeunes et de services civiques pour ne citer que. Il y aura aussi une scène ouverte avec des spectacles réalisés par les jeunes.
Nous fêterons le 20 novembre prochain les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, un après-midi d'animation et d'échange ouvert à tous autour des droits de l'enfant aura lieu de 14h à 19h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, place des Héros à Arras. Le 22 novembre aura également lieu la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Un spectacle se déroulera au lycée Senet d'Hénin-Beaumont sous forme de témoignage théâtral durant lequel interviendront Marine Borsato et Benoît Cerniac de la Ligue de l'Enseignement. Pour terminer, du 6 au 17 décembre se passera la semaine de la laïcité. Au programme, de nombreux événements à travers le département afin de faire vivre et de promouvoir la laïcité au quotidien. Rendez-vous donc lors de notre prochaine émission en décembre où nous vous en parlerons plus en détail. Merci à vous et bonne journée sur Radio Plus.
Radio Plus, la radio. La radio de toutes les générations. Radio Plus, Radio Plus. La radio, pas comme les autres.
Radio Plus.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, 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 eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont.
Radio Plus, ce n'est pas que de la musique, c'est de la radio.
J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Quand tu danses, mais que deviennent les amoureux perdus? Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Amis non, ni amants, étrangers non plus. Quand tu danses, mais quel après, après s'être appartenu? Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Je Je crois bien que j'aurai besoin de te voir quand tu danses, quand tu danses, sans te parler ni déranger, mais te voir. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Et toutes les peines, toutes, contre une seule de nos minutes. C'est pas juste. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Mais que deviennent les amours éperdus? Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses,